Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour. Comme je l'avais annoncé il y a 15 jours, l'émission d'aujourd'hui se propose d'évoquer un long poème dont la réputation d'hermétisme ne s'est jamais démentie. Aussi ne sera-t-il pas question de l'élucider, mais seulement d'inciter à sa lecture pour en goûter ce que le poète lui-même nomme « l'état chantant ». De l'aveu même de Paul Valéry, le poème « La jeune Parque » n'est pas dénué d'obscurité. Il est de plus composé en plein mi-temps de la guerre de 14-18, par rapport à laquelle il forme un étonnant contrepoint. Voici un extrait de la lettre que Valéry a écrite à Albert Mockel en 1917. « Toute mon apologie et tout le secret du poème sont clairement dans la petite dédicace à Gide. Ceci, dit-elle, est l'œuvre d'un monsieur qui depuis 22 ans n'a pas fait de vers et qui s'est proposé un exercice. En 1913, sur une demande de réunir mes anciens vers, honteux de leur petit volume et plus honteux de leur maigreur, j'ai songé à écrire une pièce de 30 à 40 vers et je voyais quelques récitatifs d'opéra à la Gluck, presque une seule phrase longue et pour contralto. J'essayais quelques alexandrins, vint la guerre, puis l'installation de la guerre et ce régime d'angoisse quotidienne qui n'est pas abrogé. Comme tout le monde, j'avais perdu ma liberté d'esprit. Je me flattais parfois en essayant de me faire croire qu'il fallait au moins travailler pour notre langage, à défaut de combattre pour notre terre, dresser à cette langue un petit monument peut-être funéraire, fait de mots les plus purs et de ses formes les plus nobles, un petit tombeau sans date sur les bords menaçants de l'océan du Charabia. Le gros de l'ouvrage fut exécuté en 15 et en 16. Qui croirait que tels vers ont été écrits dans ce temps par un homme suspendu au communiqué, la pensée à Verdun et ne cessant d'y penser. Quant à l'obscurité, mon cher ami, comment n'y serait-elle pas? Vous avez parfaitement vu que ce n'était pas l'obscurité malarméenne. Celle-ci tient à un certain système. La mienne résulte de l'impuissance de l'auteur. Le sujet vague de l'œuvre est la conscience de soi-même. La consciousness de peau, si l'on veut, je le disais assez nettement dans des fragments que j'ai supprimés, faute de savoir les faire. Trop difficile, les vers étaient impossibles, secs, cassants comme des squelettes ou plats et sans remède. Faire un chant prolongé, sans action, rien que l'incohérence interne aux confins du sommeil. Y mettre autant d'intellectualité que j'ai pu le faire et que la poésie en peut admettre sous ses voiles. Sauver l'abstraction prochaine par la musique ou la racheter par des visions, voilà ce que j'ai fini par me résoudre à essayer et je ne l'ai pas toujours trouvé facile. En latin, le mot « parca » désigne la parque, le destin, et c'est l'avatar romain d'une figure de la Grèce ancienne, Moira la moire ou la destinée personnifiée. Les Romains, à la suite des Grecs, ont aussi créé une triade à partir de cette notion et les parques sont au nombre de trois. Cloto, qui en grec désigne la destinée filée, celle dont le fil se dévide. Lachesis, d'un verbe grec qui signifie « obtenir par le sort » et Atropos, avec la signification de « ce qu'on ne peut ramener en arrière », ce qui est inflexible. Mais, puisqu'il est question aujourd'hui du poème de Paul Valéry « La jeune Parque », force est de constater qu'il n'y évoque qu'une seule Parque, et que de surcroît, c'est surtout le mythe de Psyché qu'il faut convoquer. En effet, après la dédicace à André Gide, figure une épigraphe de Pierre Corneille, tirée de la tragédie-ballet Psyché, à laquelle ont collaboré Molière, Corneille et Quinault. Cette épigraphe précise « Le ciel a-t-il formé cet amas de merveilles pour la demeure d'un serpent ? Le mythe de Psyché est touffu et complexe. L'extrême beauté de Psyché lui vaut la vindicte jalouse d'Aphrodite et elle sera un temps abandonnée sur un rocher où, selon l'oracle de Delphes, viendra la chercher un horrible monstre désireux de s'accoupler à elle. Mais, secourue par Zéphyr, elle est transportée aux abords d'un palais dans lequel une chambre somptueuse abritera son sommeil. Cette fois, à la faveur de la nuit, c'est le dieu Eros qui visitera sa couche. » On a déjà montré dans une émission précédente consacrée à Valérie son attrait pour les mythes et tout particulièrement pour le mythe de Narcisse. Or, ici, les 512 vers de la jeune Parque déploient un long monologue divisé en tronçons ou stances de longueurs inégales. L'ouverture de ce monologue peut être ainsi résumée. Une vierge s'éveille en pleine nuit sur une île rocheuse perdue dans l'océan. Et ce qui l'éveille est une douleur, la douleur d'une morsure. Elle a été mordue par un serpent. On voit donc qu'il s'agit là d'un écheveau de mythes où se brassent et se confondent Psyché, Ève, Eurydice, Narcisse, la Pythonisse, Apollon Pythien et une jeune Parque. De plus, si l'on se réfère à l'une des pensées de Paul Valéry, je le cite, « La plus belle poésie à la voix d'une femme idéale, Mademoiselle Âme. » Ce monologue est pour ainsi dire l'expression d'une conscience en éveil qui cherche à se dégager d'une morsure, d'un remords, au sens étymologique de mordu une nouvelle fois, qui ramifie cette conscience et la porte dans certains fragments du poème à évoquer son ombre ou à emprunter le labyrinthe de ses pensées les plus secrètes, à envisager sa propre mort. Après tout, ne peut-on, après Valéry, pour qui le dictionnaire étymologique de Cléda représentait une véritable Bible, rapprocher mort, mors en latin, de morsure? Lisons alors l'ouverture du poème musical à plus d'un titre, puisque Valéry, dans un texte intitulé « Le prince et la jeune Parque », affirmait aussi, je le cite, « Mon dessein était de composer une sorte de discours dont la suite des vers fut développée ou déduite de telle sorte que l'ensemble de la pièce produisit une impression analogue à celle des récitatifs d'autrefois. Ceux qui se trouvent dans Gluck et particulièrement dans l'Alceste m'avaient beaucoup donné à songer, j'enviais cette ligne. » Je lis à présent l'ouverture de la jeune Parque. En rappelant tout d'abord la dédicace à André Gide. À André Gide, depuis bien des années, j'avais laissé l'art des vers, essayant de m'y astreindre encore, j'ai fait cet exercice que je te dédie, 1917. Qui pleure là, sinon le vent simple, à cette heure seule, avec diamants extrêmes? Mais qui pleure, si proche de moi-même au moment de pleurer? Cette main sur mes traits, quel rêve effleuré, distraitement docile à quelque fin profonde, attend de ma faiblesse une larme qui fonde, et que de mes destins lentement divisés, le plus pur, en silence, éclaire un cœur brisé. la houle me murmure une ombre de reproche, ou retire ici-bas dans ces gorges de roche, comme chose déçue et bue amèrement, une rumeur de plainte et de resserrement. Que fais-tu, hérissé, et cette main glacée, et quel frémissement d'une feuille effacée persiste parmi vous, île de mon sein nu? Je scintille, lié à ce ciel inconnu. L'immense grappe brille à ma soif de désastre. Tous puissants étrangers, inévitables astres qui daignaient faire luire au lointain temporel je ne sais quoi de pur et de surnaturel, vous qui dans les mortels plongez jusque aux larmes ces souverains éclats, ces invincibles armes et les élancements de votre éternité, je suis seul avec vous, tremblante, ayant quitté ma couche, et sur l'écueil mordu par la merveille, j'interroge mon cœur. Quelle douleur l'éveille? Quel crime par moi-même, ou sur moi consommé? Ou, si le mal me suit d'un songe refermé, quand, au velours du souffle, envolé lors des lampes, j'ai de mes bras épais environné mes tempes, et longtemps de mon âme attendu les éclairs? Toutes, mais toutes à moi, maîtresse de mes chairs, durcissant d'un frisson leur étrange étendue, et dans mes doux liens, à mon sang suspendu, je me voyais, me voir, sinueuse, et dorais de regards en regards mes profondes forêts. J'y suivais un serpent qui venait de me mordre. Quel repli de désir, sa traîne, quel désordre de trésor s'arrachant à mon avidité, et quelle sombre soif de la limpidité! Ô ruse, à la lueur de la douleur laissée, je me sentis connu encore plus que blessé. Au plus traître de l'âme, une pointe menait. Le poison, mon poison, m'éclaire et se connaît. Il colore une vierge à soi-même enlacée. Jalouse, mais de qui? Jalouse et menacée? Et quel silence parle à mon seul possesseur? Dieu, dans ma lourde plaie, une secrète sœur brûle qui se préfère à l'extrême attentive.
Thank you.
un critique littéraire, Bertrand Marshall, dans un article intitulé « Valérie ou le cogito poétique, l'exemple de la jeune Park », livre cette analyse de l'ouverture que j'ai lue. Je ne restitue que sa conclusion et je vous invite à lire l'ensemble de l'article sur le site Cairn, C-A-I-R-N, Info. Que conclure, sinon que le cogito valérien n'est pas un cogito en vers. Si ce cogito est d'abord un cogito sensible, ce cogito sensible est aussi et peut-être surtout un cogito poétique, c'est-à-dire un cogito à deux niveaux, celui d'une conscience de soi, mais une conscience de soi inséparable d'une conscience du langage. Ce cogito-là ne se déploie pas dans l'espace clos d'une pensée abstraite, mais dans l'univers imaginaire des mots. « Amer savoir celui qu'on tire du voyage », soupirait Baudelaire. La jeune Park, elle aussi, nous propose un voyage initiatique à l'intérieur d'elle-même et à l'intérieur des mots. Ce voyage-là, comme celui des fleurs du mal, produit un amer savoir dont la larme est évidemment l'emblème. Amer savoir, ou plutôt amer saveur, évoquant le temps de son innocence désormais perdue, la Park s'exclame en effet « Mon amère saveur ne m'était point venue ». Savoir, saveur, l'étymologie là encore nous dit que c'est le même mot, victime de la division historique de l'intelligible et du sensible, de la pensée définie et de la poésie. Contre cette malédiction historique, le cogito valérien, où le savoir est saveur et la saveur savoir, ne rêve évidemment pas d'un âge d'or perdu des dieux et des mots, mais fonde une conscience moderne, évidemment post-cartésienne, d'un être de langage qui assume désormais seul la responsabilité de la fiction du monde. Lisons alors le morceau dont Valérie disait « Je n'ai pu me tirer de l'affaire », il veut parler de la difficulté d'élaboration du poème, « qu'en travaillant par morceaux, de ces morceaux, il en est un qui seul représente pour moi le poème que j'aurais voulu faire. Oh, n'aurait-il fallu, folle, que j'accomplisse ma merveilleuse fin de choisir pour supplice ce lucide dédain des nuances du sort ? Trouveras-tu jamais plus transparente mort, ni de pente plus pure où je rampe à ma perte, que sur ce long regard de victime entr'ouverte ? Oh, n'aurait-il fallu, folle, que j'accomplisse ma merveilleuse fin de choisir pour supplice ce lucide dédain des nuances du sort ? Trouveras-tu jamais plus transparente mort, ni de pente plus pure, où je rampe à ma perte, que sur ce long regard de victime entr'ouverte, pâle, qui se résigne et saigne sans regret ? Que lui fait tout le sang qui n'est plus son secret ? Dans quelle blanche paix cette pourpre la laisse, à l'extrême de l'être, et belle de faiblesse ? Elle calme le temps qui la vient abolir, le moment souverain ne la peut plus pâlir, tant la chair vide baise une sombre fontaine. » Et un peu plus loin, ce fragment, qui, me semble-t-il, est à mettre très particulièrement, tout particulièrement, en lien avec le titre « La jeune Park ». Cherche, du moins, dis-toi par quelle sourde suite la nuit d'entre les morts au jour t'a reconduite. Souviens-toi de toi-même et retire à l'instinct ce fil, ton doigt doré le dispute au matin, ce fil dont la finesse aveuglément suivie jusque sur cette rive a ramené ta vie. Sois subtil, cruel ou plus subtil, mens, mais sache, enseigne-moi par quels enchantements, lâche, que n'a su fuir ta tiède fumée, ni le souci d'un sein d'argile parfumée, par quel retour sur toi, reptile, as-tu repris tes parfums de caverne et tes tristes esprits. Je lis pour finir la strophe qui vient clore l'ensemble du poème « La jeune Parque ». Alors, n'ai-je formé vains adieux si je vis, que songe ? Si je viens en vêtements ravis sur ce bord, sans horreur, humer la haute écume, boire des yeux l'immense et riante amertume, l'être contre le vent, dans le plus vif de l'air, recevant au visage un appel de la mer. Si l'âme intense souffle et renfle furibonde, l'onde abrupte sur l'onde abattue, et si l'onde au cap tonne, immolante un monstre de candeur, et vient des hautes mers vomir la profondeur sur ce roc, d'où jaillit, jusque vers mes pensées, un éblouissement d'étincelles glacées, et sur toute ma peau que morde l'âpre éveil, alors, malgré moi-même, il le faut, ô soleil, que j'adore mon cœur où tu te viens connaître, doux et puissant retour du délice de naître, feu vers qui se soulève une vierge de sang sous les espèces d'or d'un saint reconnaissant. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre tout d'abord une pièce de Claude Debussy, Syrinx pour flûte solo, avec à la flûte Emmanuel Pahu. Puis on a pu entendre Janet Baker qui chantait un air de l'acte 1 de l'Alceste de Gluck, l'air célèbre Divinité du Styx. Et enfin, toujours Janet Baker dans Gluck, toujours Alceste, l'air intitulé « Grand Dieu, soutenez mon courage ». Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.